Chapitre 26. Flocons, soupçons et spéculations. Jamais un conseil n'avait été aussi agité. Cette fois, les fenêtres de la salle du conseil étaient toutes fermées, d'une part pour ne pas laisser le froid féroce du dehors entrer, mais surtout pour que les discussions ne soient pas entendues au verger. Les reproches tombèrent d'abord sur Liu, le ministre des Inventions, qui, d'après Augénor, le grand cerf, au lieu de passer son temps avec les savants à essayer d'inventer de nouveaux objets, aurait déjà dû commencer par s'intéresser à ce qui fonctionnait avant. « Tout de même, Liu !» insista Isalis, en laissant glisser ses lunettes dorées jusqu'au bout de son nez, apparemment pas mécontente du fiasco des savants. « Tu te rends compte ? Vous étiez tout un pavillon à essayer de déchiffrer ces hiéroglyphes pour trouver le tombeau de Marie-Lune, et vous vous êtes fait doubler par une fillette qui parle encore à sa poupée et un garçon qui n'a presque jamais mis les pieds dans un cours d'histoire. » « On s'en fiche !» s'énerva Alix. La reine était rarement apparue autant en colère lors d'un conseil. Pendant plus de 10 minutes, elle fit s'abattre sur le grand cerf et Jeanne d'Arc une pluie de reproches. Avoir fait suivre Chrysante et Zizo sans en avoir informé le conseil, avoir décidé d'intervenir dans la chambre mortuaire de Marie-Lune sans la réveiller, avoir utilisé leur beau contre deux ados sans l'autorisation du secrétaire général de la paix. Le ministre des Punitions et le grand cerf encaissèrent sans broncher. Quand l'averse royale parut un peu se calmer, Augénor se tourna vers Alix sans se départir de son éternel sourire énigmatique. Car bien entendu, Majesté, tu as tenu informé le conseil de tout ce que Zizomis te racontait. Alix s'était décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Nous étions fâchés, donc il ne m'a fait aucune confidence, si tu veux savoir. Tu veux que je te remercie de nous avoir donné l'occasion de nous réconcilier ?
Augénor ne commenta pas, se contentant de caresser Puggy couché sur ses genoux. Isalis en profita pour enfoncer le clou.
« Augénor, tu sais que je t'ai toujours soutenu. Mais tout de même, brûler un livre !»
Le conseiller d'ordinaire répliquait en insistant pour qu'on l'appelle « grand cerf », mais il ne dit rien cette fois. Alix poursuivit son réquisitoire.
« Quant au papyrus que tu as pris dans le sarcophage, Idris et Django avaient juré sous serment avoir vu Augénor s'en saisir à la fin du combat dans la chambre mortuaire.
Cette lettre m'était adressée, personnellement, par ma mère. Évidemment, la nouvelle avait fait le tour du château et du tipi avant midi. Tous les ados ne parlaient que de l'inscription gravée sur le sarcophage de bois. Marie-Lune était la mère de deux jumeaux. L'un était Augénor et l'autre, une inconnue.
« Tu pourrais nous la montrer ?»«
Non. » Il caressa la tête plate de Puggy avec tendresse. « Elle n'est adressée qu'à moi. Elle ne contient rien qui soit important pour la vie du château. » Le conseil garda le silence un long moment. Que répondre à ça ? Augénor était le premier enfant depuis le passage du nuage à connaître le visage de sa mère et à recevoir un courrier d'elle. Sans doute des mots d'amour. Qui aurait pu vouloir salir cela ? Qui aurait pu vouloir violer son intimité au point de lui imposer de lire en public ce testament ? Pourtant, Zizo avait affirmé avoir lu 3 lettres au verso du papyrus avant qu'Augénor ne le vole. N et O. Ces 3 mêmes lettres qui, d'après Solario, figuraient sur la carcasse échouée du soleil de fer. Que pouvait-elle signifier ? Est-ce que Génor lui-même le savait ? Il ne dirait rien pour l'instant, Alix en était persuadé, et il y avait plus important. « Et le diamant ? » poursuivit-elle. Le diamant posé sur le cœur de l'armure de bronze avait lui aussi disparu.
« Je l'ai remis à Tiphaine, » expliqua Augénor. « Isalis pourra vous le confirmer. »
Tiphaine étant la meilleure bijoutière du pavillon des singes, la ministre du temps passé secoua la tête avec précaution pour acquiescer sans se décoiffer.
« Majesté, » ajouta Augénor, « je voudrais te demander une faveur. Ce diamant, était posé sur le cœur de ma maman. J'aimerais qu'il soit utilisé pour décorer le pommeau d'une canne qui me servirait de beau, même si dans mon fauteuil, je n'en aurais jamais l'utilité. Un diamant n'avait aucune valeur particulière dans le nouveau monde qu'il construisait, et Augénor avait insisté sur deux mots, maman, puis fauteuil. Avait-on oublié qu'il était handicapé? Que ce souvenir de Marie-Lune lui appartenait? Que sans cette relation particulière qu'il entretenait avec leur mère à tous, dans la rotonde d'Apollon, depuis qu'il était né, le château n'aurait pas été aussi organisé, aussi en sécurité? Le conseil accorda cette faveur à Augénor. Il pourrait disposer d'un beau d'acajou, serti du diamant, à l'unanimité. Tout le monde allait se lever quand Vanille toussa.
« Je ne voudrais pas casser l'ambiance. »
Chaque membre du conseil reposa ses fesses sur les chaises en retenant un soupir. Honora avait prévu de la soupe à la citrouille au dîner, la première de la saison. Un véritable délice. Et les membres du conseil allaient encore arriver les derniers au salon des sept cheminées. Vanille déplia une longue feuille d'inventaire. Et la soupe serait froide. Elle sortit un second tableau et l'étala sur la table. Si jamais il en restait. Pourtant, il fallait bien le reconnaître, tout ce qu'exposait Vanille était capital, vital même. L'hiver arrivait, les prévisions de Coriolis, le savant spécialiste de la météo, étaient alarmantes. Jamais on n'aurait connu d'hiver plus rigoureux. Et le pic de froid interviendrait au moment de la veillée du sanctuaire. Il fallait prévoir l'accueil de tous les enfants du tipi, vérifier les stocks, l'isolation du château, contrôler l'état de fonctionnement des moulins et des turbines le long de la Seine afin d'être certain qu'on aurait assez d'électricité pour s'éclairer et se chauffer. Bref, il fallait assurer la protection de tous les ados. Vanille continua de lister toute une série de questions ayant trait à la sécurité. Qui était le voleur circulant librement dans le château? Elle n'avait jamais oublié la disparition de la couronne de fleurs d'Immortel après le birthday. Où étaient partis se cacher Bill et Mordelia? Pourquoi certains stocks de nourriture disparaissaient-ils étrangement? Plus inquiétant encore, la ministre du jour et de la nuit avait constaté une diminution anormale du stock d'arsenic. Cette roche très dangereuse destinée à fabriquer la mort aux rats, le poison qu'on dispersait dans les caves du château pour piéger les rongeurs. Pourtant, malgré l'importance de toutes les interrogations de Vanille, en réalité, une seule question intéressait les ados, aussi bien les membres du conseil que ceux du tipi et des trois pavillons. Et dans les semaines qui suivraient, elle allait alimenter toutes les conversations, toutes les spéculations. Qui est la sœur jumelle d'Augénor? Il restait un bon quart d'heure de cours quand la neige se mit à tomber. C'était la première de l'hiver. De gros flocons flottaient sans se presser d'atterrir sur le sol gelé, si dense qu'on aurait dit des fleurs de coton soufflées par le vent. Les façades grises, les rues, les pelouses du verger se couvraient d'une pellicule blanche qui donnait irrésistiblement envie de s'y rouler. On aurait dit une ville transformée en un gigantesque matelas de plumes. Les classes de singes regardaient par la fenêtre la neige tomber sur le fleuve. Les flocons s'y noyaient. Mais le pont des arts en recueillait assez pour ressembler à une passerelle irréelle, un pont de glace recouvert de poudreuse. Il terminait, sous le contrôle d'Isalis, un travail soporifique sur les vers des tragédies d'un certain Shakespeare, rois antiques, amours en toc. Sabine fut la première à se lever, à coller le bout de son nez au carreau froid, puis à traverser la salle de classe en courant, faisant s'envoler les copies des autres élèves sans même ramasser la sienne. Estive, Coco, Tiphaine, après avoir hésité, décidèrent de la suivre, indifférentes aux protestations d'Isalis qui hurlait que le cours n'était pas terminé. Sabine, sans ralentir, passa sous la pyramide et déboucha devant la salle d'entraînement des soldats en criant du plus fort qu'elle le put.
« J'affronte n'importe quel manieur de beau à coups de boule de neige !»
Elle fila jusqu'au dortoir des filles, récupérer un manteau, des gants et un bonnet en poil d'écureuil, puis ouvrit grand les portes de la pyramide pour sortir défier les flocons qui voltigeaient dans le verger.
Quelques minutes plus tard, Zizo, Alix et Akane avaient quitté leur entraînement, troqué leur kimono contre une cape chaude et la rejoignirent. Alix et Akane furent cueillis, dès qu'ils mirent le visage dehors, par une pluie de boules de neige. Sabi avait eu le temps de constituer sa réserve. Zizo fut le plus habile et d'un geste de samouraï avec son beau de rosier, fendit en deux la boule qui filait vers lui. Akane ramassait déjà une boule géante pour la lancer sur Sabi.
« Interdit de me viser !»
protesta la Loli Girl.
« N'oublie pas, je suis peut-être la sœur jumelle de Génor !»
Zizo en avait profité pour former lui aussi une boule et viser Alix. La reine, qui avait troqué sa couronne contre un bonnet péruvien, agita les mains pour se défendre.
« Interdit aussi de tirer sur moi !» lança-t-elle. « La sœur jumelle de Génor, ça peut être moi aussi ?»
Zizo éclata de rire sans savoir quoi faire avec sa boule.
« Ça peut être n'importe qui !» protesta-t-il. « Ça veut dire qu'on peut plus viser les filles !»« T'as tout compris !»
confirma Sabi tout en lui jetant une boule bien tassée que Zizo cassa une nouvelle fois avec son beau, mais trop près de son visage cette fois, et la poudreuse lui explosa en pleine figure.
« De toute façon !» continua Zizo en crachant la neige entrée dans sa bouche. « Je suis certain que la sœur d'Ogénor, c'est Isalis. Ils se ressemblent et s'entendent trop bien tous les deux !»
Akane tentait d'approcher de Sabi, tenant à deux mains une boule de la taille d'une tête de lion. Sabi, vive et rapide, courut se cacher derrière une statue gelée. Sa voix moqueuse résonna dans le jardin de coton.
« T'imagines ? Nanor et Zaza, frères et sœurs !» Deux gosses aussi tête à claque l'un que l'autre. Pas étonnant que Mama Luna ait préféré s'allonger peinarde dans deux sarcophages plutôt que de les élever.
Elle se baissa pour éviter un projectile. Seul son bonnet d'écureuil dépassait.
Trop forte d'ailleurs, Mama Luna,
continua-t-elle.
Refermer un double sarcophage de l'intérieur? Comment elle a fait ça? Rien qu'à la force de ses doigts de pied?
Dans la tempête, les silhouettes de Philao et Florentine surgirent derrière eux. Les deux ados portaient des bouquets de jasmin d'hiver, sans doute cueillis dans les serres du verger. Ils lancèrent un regard noir à Sabi, visiblement choqué par ses propos sur Marie-Lune. Une nouvelle boule, lancée par Akane, les rasa.
« Oups !»
s'excusa Sabi.
« Désolé, c'est moi qui le visais. Soyez chou, vous pourrez réciter des prières à Mama Luna pour moi ?»
La Loli Girl avait compris que les fleurs étaient destinées à la tombe de Marie-Lune. Depuis la découverte de son sarcophage, la chambre mortuaire ne désemplissait pas. Un véritable défilé. Les ados venaient lui offrir des bouquets, des dessins et même de la nourriture. Un vrai culte. Même ceux du tipi y participaient. Alix s'interposa pour que Philao et Florentine puissent traverser le champ de tir en sécurité.
« Temps mort !»
cria-t-elle. Elle était reine, tout de même. Derrière Philao et Flo passèrent Wayne et Cheyenne, chapeau tout blanc pour lui et franges de manteau dégoulinantes pour elle. Il traînait à quatre mains une grosse valise, ralentie par la neige qui s'accumulait devant elle. Ils transféraient leurs affaires du tipi au château pour s'y installer pendant l'hiver comme tous les autres ados. On avait fait de la place dans les dortoirs. Chacun se serrerait un peu et tout se déroulerait au mieux. À coup sûr, imagina Alix, l'hébergement des ados du tipi au château favoriserait l'apparition de couples mixtes, en prévision du grand bal, comme Zizo et elle, ou Sabi et Akane. Mais bien entendu, les dortoirs des trois pavillons, eux, n'étaient pas mixtes. Le conseil avait été formel sur ce point. Et même Sabi n'avait pas osé intervenir pour tenter d'imposer une nouvelle révolution. Wayne et Cheyenne s'éloignaient déjà, laissant derrière eux une épaisse traînée dans la neige. Alix se sentait fière d'être la reine de deux tribus unies, réunies, qui toutes deux maintenant considéraient Marie-Lune comme leur mère protectrice. Bien sûr, ce culte avait un goût amer quand on connaissait le récit de Piersol, quand on avait visité le cimetière de Picpus, quand on savait que tant d'enfants auraient pu survivre si Marie-Lune leur avait ouvert la porte du château. Mais c'était de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, les deux tribus étaient réconciliées, comme Zizo et elle. Ne rien révéler aux autres, oublier cette nuit de la pyramide, était la meilleure solution. Et même, estimait Alix, au fond, Augénor avait bien fait de brûler le livre. Peut-être avait-il deviné que Marie-Lune était sa maman, la vraie, et avait-il voulu ainsi protéger sa mémoire. Alors, tant pis si les ados apportaient des fleurs, des dessins, des bougies et des objets sculptés à une femme sans pitié. Ses enfants, eux, possédaient un cœur. Bien plus gros que celui des adultes, pensa Alix. Les portes du château sont ouvertes, on se tassera, personne ne restera dehors. Boum ! Une boule de neige explosa sur le crâne d'Alix, à en décrocher son bonnet. Hakan venait de tirer avec une redoutable précision. Il attrapa Sabine par les épaules et fit semblant de se cacher derrière elle.
« J'ai le droit !» cria Hakan à la reine. « Ce n'est pas toi la sœur de Génor ! Sa sœur est forcément une fille du Tipi qui a été séparée de son frère et de sa maman, puisque Marie-Lune ne connaissait pas son nom !»
Bien raisonné, pensa Zizo. Alix le visa quand même. Hakan plongea dans la neige, se roulant dans la poudreuse avec sa bille qui riait aux éclats. Elle se releva dans un nuage blanc, son bonnet d'écureuil de travers et ses longs cheveux trempés.
« Alors, c'est Vanille !» affirma-t-elle.
« C'est obligatoirement elle. Elle est aussi sérieuse et froide que Génor. »
Zizo, qui s'était fait oublier, s'apprêtait à viser à son tour la reine.
« Faux !» fit Alix. « Je sais qui est la sœur de Génor. Si on y réfléchit bien, c'est logique. C'est, évidemment, Chrysante !»
Zizo arrêta son geste.
« Quoi ?»
Alix en profita pour se dissimuler à son tour derrière un petit bosquet de houx.
« Réfléchissez ! Augénor est handicapé de naissance. Et Chrysante est, disons, pas tout à fait normal. Il y a eu un problème lors de leur accouchement. Des jumeaux, c'est toujours plus compliqué. Et ils sont nés, différents. »
Zizo lâcha la boule qu'il tenait dans son poing. Il n'aimait pas les petites attaques qu'Alix continuait de lancer contre Chrys dès qu'elle en avait l'occasion. Bien sûr, Chrysante était une fille spéciale. Mais elle s'était comportée avec une sacrée classe. Elle avait accepté de ne rien raconter à personne du récit de Pierre-Sol ni du cimetière de Picpus. Cette docilité l'avait d'ailleurs étonnée. Augénor s'était comporté comme un tortionnaire dans la chambre mortuaire, et Chrysante devait éprouver pour le grand cerf une haine sans limite. Pourquoi avait-elle gardé le silence? Parce que Chrysante, elle aussi, doutait? Parce qu'au fond d'elle-même, une intuition lui ordonnait de ne pas saccager la réputation de Marie-Lune? Parce qu'elle était peut-être sa mère? L'explication tenait la route, estima Zizo. Mais l'autre possibilité, c'était tout simplement que Chrysante avait accepté de se taire parce qu'il le lui avait demandé, parce qu'elle ne pouvait rien lui refuser, parce qu'elle était amoureuse de lui. « Ça lui passerait, » espéra Zizo, maintenant qu'il était à nouveau avec Alix. De toutes les façons, ces dernières semaines, Chrys avait été surtout occupée à soigner Lali. Estive et Lunella lui avaient proposé toutes sortes de coiffures, tirées de leur catalogue de Lolimode pour remplacer ses cheveux brûlés. Rasta, crête iroquoise, teinture fluo, mais Chrysante avait préféré de sages tresses de laine. Sabine rampait dans la neige pour s'abriter sous un banc, tel un soldat en mission commando.
« Waouh !»
commenta-t-elle.
« Chrys et Nonor, quel couple ! Elle va faire brûler en enfer son propre frère !»
Hakan s'était lui aussi abrité derrière le banc. Il ramassait des boules géantes pour les bombarder. Zizo prit la main d'Alix, puis ils battirent en retraite en courant vers la pyramide.
« Vous racontez n'importe quoi ?» s'écria Hakan. « Il y a plus de 100 filles au château. Sa sœur peut être n'importe laquelle. »
Boum, boum, boum. Les obus glacés volaient autour de la reine et de son amoureux et s'écrasaient contre la paroi de verre de la pyramide. Boum, boum, boum. Zizo aperçut des savants passer sous la pyramide, sortant des douches, portant des serviettes ou de simples chemises. Il faisait chaud dedans. Et dehors, si froid. Boum, boum. Boum! Un cœur qui bat. Non, se forçait à se raisonner Zizo, sans lâcher la main d'Alix. Non, ce n'était que son imagination. Il avait 4 ans lors de la nuit de la pyramide. Il était trop jeune. Il ne pouvait pas se rappeler ces centaines d'enfants aux portes de l'hiver frappant pour entrer.
Pourtant, au plus profond de son cerveau, il lui semblait entendre un son sourd, tel un tambour, des mains qui cognaient, des pieds qui frappaient. De plus en plus fort, comme chaque fois que la neige tombait sur la pyramide. Son imagination, ce n'était que son imagination. Boum. 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 La boule le frappa en pleine tête. Akan ou Sabi? Tous les deux riaient autant, assis côte à côte sur le banc. Le choc avait secoué ses pensées et tout s'était soudain éclairé. Il savait qui était la sœur d'Augénor. C'était tellement évident. Il tourna le regard vers la cour carrée, dont les voûtes d'entrée étaient bouchées par les congères qui commençaient à s'accumuler. Il repensa au regard qu'Augénor avait échangé à la fin de la bataille de la cour carrée quand Mordelia avait quitté le champ de bataille. Un regard de défi, comme s'il se connaissait. Ou se reconnaissait, c'était si évident. Augénor et Mordelia étaient les deux ados les plus dangereux de chaque camp, chacun nourri de haine envers l'autre tribu, chacun à sa façon. Frères et sœurs, séparés et devenus ennemis jurés. Et puis, les idées s'enchaînaient, logiques, claires. Mordelia possédait ce cahier. Comment aurait-elle pu le récupérer, sinon parce qu'il menait au tombeau de sa mère?